Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler des destructions de la Commune. Le 28 mai 1871, l'expérience de la Commune de Paris prend fin après 72 jours d'insurrection. Les derniers insurgés sont fusillés à Belleville. Le bilan est lourd, entre 10 000 et 20 000 morts et un millier de bâtiments endommagés ou détruits dans la capitale. Des immeubles, le plus souvent près des barricades, mais aussi des monuments emblématiques. La colonne de la place Vendôme, le ministère des Affaires étrangères, l'hôtel de ville, le palais des Tuileries. Des incendies qui durent parfois plusieurs jours. Ces ruines vont fasciner les contemporains. Hélène Lewandowski est historienne de l'architecture. Elle a consacré un premier livre à ce sujet, La face cachée de la Commune, aux éditions du Cerf. Puis cette année, elle sort un nouvel ouvrage sur un monument en particulier, le Palais d'Orsay, une autre histoire du 19e siècle, aux éditions Passé Composé. Nous allons essayer de comprendre avec elle ces destructions et tous les enjeux de mémoire qu'elles peuvent porter. Bonjour Hélène Lewandowski.
Bonjour Priscille Delassu.
Alors, les destructions sont une réalité quotidienne hein, pour les Parisiens depuis le début de l'année 1871, puisqu'ils ont été d'abord bombardés par les Prussiens.
Exactement.
Et puis, le siège de Paris prend fin et éclate cette guerre civile, d'une certaine façon, qui est la Commune. On pourrait commencer par parler de la destruction de la colonne Vendôme qui s'attaque à la figure de Napoléon, dont la statue est placée au sommet.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand la Commune éclate le 18 mars, Paris a déjà été mutilé par, effectivement, vous l'avez dit, la guerre franco-prussienne, puisqu'à partir du 19 septembre, il y a un siège. Les Parisiens résistent au froid, à la faim, etc. Et donc, les Prussiens décident de sortir les grands moyens et vont bombarder Paris tout le mois de janvier. Pendant 3 semaines, 7000 obus vont tomber sur Paris. Donc, Paris est déjà un peu mutilé. On est bien d'accord. Quand la Commune éclate le 18 mars, Paris a déjà connu beaucoup de dommages. Et puis, effectivement, il y a la Commune de Paris qui s'installe à partir du 18 mars. Le gouvernement s'en va à Versailles et les communards sont seuls avec les Parisiens dans Paris et vont décider d'un certain nombre de mesures pour prendre, pour punir en fait les ministres et pour punir le gouvernement versaillais. Notamment, il y a alors la colonne Vendôme qui elle va être détruite et non pas incendiée, hein, qui va bien être détruite parce qu'on s'attaque évidemment à l'image de l'empereur. On décide de la faire tomber. Il y a une grande fête, il y a de la musique, etc. Et puis il y aura aussi l'hôtel d'Aune, le Thiers, qui est la maison d'Adolphe Thiers, qui va également être détruite. Donc ça, c'est les deux premières destructions emblématiques faites par la Commune.
Adolphe Thiers, qui est le chef du gouvernement.
À ce moment-là,
l'ennemi des communards.
Tout à fait. Donc ça va être les deux premières destructions faites par les communards. On n'est pas encore dans la guerre civile, on est juste dans le siège, en fait, puisqu'il va y avoir un deuxième siège après celui des franco-prussiens. Donc le 18 mars, le gouvernement est parti à Versailles. Et à partir de début avril, Paris va être à nouveau assiégé, mais cette fois-ci par les troupes du gouvernement. À partir du 2 avril, les troupes du gouvernement qui sont installées au Mont-Valérien vont prendre aussi Courbevoie, vont s'installer à Montretout, et là vont à nouveau bombarder la ville. Donc là, on a une deuxième vague de destruction, et c'est là où on va avoir énormément de destruction à l'ouest parisien, et là, on va avoir un millier de bâtiments détruits pour que l'armée régulière puisse rentrer dans Paris. Et puis, vous l'avez dit, il y a une troisième vague de destruction qui, là, va se faire pendant la semaine sanglante, c'est-à-dire qu'une fois que les troupes versaillaises sont rentrées dans la ville, va y avoir des combats de rue, va y avoir des obus qui vont être lancés entre les Versaillais et les communards, et puis il va y avoir ces fameux incendies auxquels on associe bien souvent les communards, comme on associe à la rigueur la fleur de lys avec les monarchistes. C'est vraiment leur image, c'est les incendies de la Commune. Et là, on a une troisième vague de destruction qui va avoir lieu dans Paris. Donc Paris est vraiment très très malmené entre janvier et mai 1871.
Nous allons donc un peu parler de ces incendies qui ont surtout lieu entre le 21 et le 28 mai, au cours de ce qu'on appelle la semaine sanglante. En fait, leurs causes sont multiples.
Alors, effectivement, donc le 21 mai, tout Paris est aux Tuileries en train de suivre un concert au profit des veuves et des orphelins de la guerre. Bon. Et donc, il n'y a plus vraiment personne pour protéger Paris à l'ouest parisien. Et donc, les Versaillais, enfin, l'armée régulière qui a bombardé toute cette partie-là jusqu'au Terne, il y a des obus qui sont tombés sur l'Arc de Triomphe, hein, donc ils sont venus très très loin, vont pouvoir rentrer dans Paris. Et là, il y a 60 000 hommes qui rentrent le 21 mai dans Paris. Et le 22 mai, à 3 heures du matin, ils sont dans Paris et ils ont déjà repris un tiers de la ville. Bon. Et donc, tous les fédérés qui étaient les insurgés, qui étaient au Trocadéro et à l'école des Invalides, vont descendre, se regrouper à l'hôtel de Salm. Mais l'étau se resserre. Petit à petit, les Versaillais arrivent et l'étau se resserre autour des insurgés. Et donc, il y a eu effectivement la volonté de la part des communards d'incendier tout Paris sur le thème « Si Paris doit redevenir monarchiste, autant faire disparaître Paris ». Donc, il y a effectivement, plus le désespoir avançait et plus il y a eu des prises de position radicales. Et donc, effectivement, dans les clubs, beaucoup d'insurgés ont dit qu'ils voulaient mettre à feu Paris. Ceci dit, il y a une autre raison à ça. C'est qu'en fait, comme l'a dit Louise Michel lors de son procès, l'idée était d'opposer une barrière de feu aux envahisseurs, d'après eux, c'est-à-dire à l'armée régulière qui voulait reprendre Paris. Et donc, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure, plus les Versaillais approchent et plus les bâtiments vont être mis à feu. Donc c'est d'abord l'hôtel de la Légion d'honneur, hein, l'hôtel de Salm, qui est à quelques pas d'ici, qui va prendre feu. Et tout va prendre feu, c'est-à-dire toute la rue de Lille va être incendiée. Donc c'est le palais d'Orsay qui est juste en face et qui accueille à cette époque-là le Conseil d'État et la Cour des comptes, mais c'est aussi la Caisse des dépôts et consignations. Toute la rue de Lille va être embrasée en même temps, à 18h, et quelques heures plus tard, à 20h, ça sera les Tuileries, puis ça sera l'hôtel de ville, puis au fur et à mesure de la retraite des insurgés dans l'Est parisien, les bâtiments vont prendre feu, donc le palais royal, le palais de justice, etc., des théâtres, etc., etc., jusqu'au dernier jour, le 28, donc là, on a les docks de la Villette qui prennent feu. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pharmacies, dans les bars, mais aussi aux docks de la Villette, il y a des produits inflammables, puis il y a de l'alcool. Donc, les brasiers sont quand même assez énormes. Et en plus, il ne pleut pas pendant 2-3 jours, et c'est qu'à partir du moment où il va pleuvoir qu'on va réussir à éteindre réellement les incendies.
Alors, ces incendies sont-ils, pour certains, prémédités, c'est-à-dire décidés de façon politique? Ou bien est-ce que dans l'effervescence du moment,
sans doute les deux.
C'est vraiment la confusion qui l'emporte.
Sans doute les deux. Il y a sans doute une volonté de certains insurgés de faire une politique de terre brûlée. Mais ça, ce n'est pas les communards qui l'ont inventé depuis l'Antiquité. Ça existe. Hein. Dès qu'on a conquis une ville, on la met à feu. Les habitants de Moscou ont fait ça pour priver Napoléon Ier de ressources. Donc, ils ont décidé effectivement de ne pas laisser. Ils étaient persuadés, en fait, que le gouvernement allait redevenir monarchiste. Ce qui, pour les républicains parisiens, car Paris est profondément républicaine depuis la Révolution, était impossible. On n'allait quand même pas rendre Paris à des monarchistes. Donc, il y a vraiment eu l'idée, effectivement, dans les clubs, d'incendier Paris. Mais en fait, ils n'ont pas eu le temps de mettre au point leur programme. Il n'y a pas eu de programme. Et d'ailleurs, le général Appert, le jour où il est entendu par la commission qui est censée décider qui va être condamné ou pas, dit clairement non, il n'y a pas eu de programme. Ils ont fait ça dans la peur, dans l'angoisse, dans le désespoir, dans le chaos. Et d'ailleurs, on ne sait pas toujours qui a allumé réellement. Alors évidemment, il y a des bâtiments qui ont été, des incendies qui ont été revendiqués par les communards. Mais on ne sait pas toujours dans le chaos de la guerre civile. Par exemple, le ministère des Finances a été incendié 2 fois. La première fois par un obus versaillais qui est tombé le 23. Les insurgés qui sont sur place éteignent l'incendie. Et le lendemain, comme il faut s'enfuir, eh ben, il rallume un incendie dans le ministère des Finances qui va brûler une deuxième fois, et cette fois-ci pour de vrai, puisqu'il faudra raser le bâtiment. Donc il y a vraiment de tout, mais on est dans un chaos incroyable, et il y a les deux camps se répondent par obus interposés, pas toujours avec précision. Il faut savoir, par exemple, que l'armée régulière, il y a beaucoup de provinciaux dans cette armée régulière qui ne font pas la différence entre le dôme du Panthéon et le dôme du Val-de-Grâce, moyennant quoi il y a une chambre qui va recevoir 37 obus une journée, une chambre de l'hôpital du Val-de-Grâce, parce qu'ils ont confondu avec le Panthéon qui était censé être un lieu des insurgés. Donc tout ça dans le chaos, c'est impossible de savoir si cet obus était versaillais, si celui-ci était sécurité communard. Et si, de même, il y a eu 900 barricades dans tout Paris, vous imaginez bien ce que ça donne. Or, autour des barricades, il y a eu beaucoup de combats. Et donc, tous les cafés au coin, les bâtiments au coin ont eu leurs vitrines détruites, ou si jamais des Parisiens tiraient sur les communards de leurs bâtiments, les communards ont incendié les bâtiments dans lesquels desquels partaient ces tirs. Donc vous voyez bien qu'on est dans un chaos tel qu'on ne peut pas toujours savoir qui a fait quoi.
Et de la même façon, bien sûr, tout Paris n'a pas brûlé.
Non.
Il s'agit de certains quartiers,
bien sûr,
de certains monuments, mais des monuments particulièrement symboliques. Je pense aux deux principaux, l'Hôtel de Ville et le Palais des Tuileries.
Tout à fait. Alors, il y a une chose très intéressante sur le Palais des Tuileries. Donc, les premiers bâtiments qui vont être incendiés sont ceux donc, de la rue de Lille. Et puis, deux heures plus tard, donc ça, c'est le 23 à 18 heures. Et deux heures plus tard, à 20 heures, vu que les Versaillais approchent beaucoup, on décide de faire aussi brûler les Tuileries. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous lisez les comptes rendus et les ouvrages qui vont sortir peu de temps après la Commune, tout le monde parle de cette chronologie-là, c'est-à-dire d'abord la rue de Lille et ensuite les Tuileries à 20 heures. Petit à petit, on va parler des bâtiments emblématiques, comme vous le dites, par leur ordre d'importance. Donc petit à petit, on va dire, voici la liste des bâtiments incendiés, et on commence toujours par les Tuileries. Résultat, au XXe siècle, on ne parle plus que des Tuileries qui ont été incendiées en premier. Et donc ça confirme l'image des communards ayant voulu s'attaquer aux beaux. Et on oublie qu'il y a eu une stratégie militaire qui était d'incendier pour mettre effectivement une barrière de feu. Et quant à l'Hôtel de Ville, quand on l'incendie, beaucoup de communards disent on va incendier le château d'Haussmann, puisque Haussmann y était installé en tant que préfet de la ville, etc. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a eu à la fois la volonté de détruire des lieux symboliques, emblématiques, et en même temps, une stratégie militaire qui était pendant que la barrière de feu, vraiment la barrière de feu pour empêcher les gens d'avancer.
Quand l'épisode de la Commune se termine, ces ruines vont très vite fasciner les contemporains. Elles font l'objet de promenades du dimanche en famille. Les provinciaux se déplacent jusqu'à Paris pour les voir et même les étrangers, les Anglais, organisent des visites guidées dans les ruines de Paris. Et ce, quelques semaines après la fin des événements, comment expliquer cette fascination pour ces ruines parisiennes?
Alors, il y a vraiment, effectivement, une fascination. Ça commence juste quelques jours après, puisque même sur les ruines fumantes, il y a déjà des gens qui viennent regarder, quoi. Et donc, dans la presse de l'époque, il y a plein de petits avertissements. Attention, ne mettez pas vos doigts quand vous allez vous brûler, vous allez vous prendre une pierre sur la tête, etc. Et effectivement, les trains de plaisir, c'est-à-dire les trains de touristes, sont une semaine ou deux semaines après, déversent sur Paris énormément de provinciaux. Et les Cook's Tours de Londres arrivent, c'est les premiers en fait, voyages organisés, arrivent et déversent sur Paris des flots de touristes anglais qui viennent voir. Et d'ailleurs, ils sont assez déçus parce qu'on leur a tellement dit que Paris avait entièrement brûlé, entièrement disparu sous les ruines, qu'ils sont très déçus parce qu'à part l'Ouest parisien qui a été bien détruit par le pilonnage pendant trois semaines de l'armée régulière, entre l'Ouest parisien et le centre de Paris, là, il n'y a aucune destruction. Ils n'ont rencontré pratiquement aucune résistance. Donc là, il y a eu très peu de destruction. Et puis une fois passé la rue de Lille, l'Hôtel de Ville, un peu le centre et l'Est parisien, bon, il y a toute une partie de Paris qui n'est absolument pas détruite. Et d'ailleurs, John Motu, qui est un journaliste au Moniteur Universel, va faire un livre en disant « Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas voir Paris tout détruit. » Donc, il fait la liste des choses qu'on peut aller visiter. Et donc, pour tous les touristes qui viennent visiter les ruines, ce qui va relancer l'économie, on le comprend bien, en fait, hein, puisque tous ces gens-là vont aller dans les restaurants, dans les hôtels, etc. Eh bien, on édite, il y a des hôtels qui éditent des plans, comme des fois, maintenant, on peut vous donner dans des hôtels, avec les photos des bâtiments, le plan pour aller les voir, pour aller faire des visites guidées. Il y a des guides touristiques qui sortent avec excursion journée 1, journée 2, etc. Il va y avoir plein de photos, effectivement, qu'on va pouvoir acheter par album, et puis des petits souvenirs de ce genre pour ramener chez soi. Ça devient vraiment effectivement la sortie touristique du moment.
La question va donc se poser pour le pouvoir politique. Que faire de ces ruines qui rappellent finalement de mauvais souvenirs qu'on préférerait effacer? Faut-il les laisser telles quelles? Faut-il les raser? Faut-il restaurer les monuments à l'identique? Faut-il en imaginer de nouveau? Tout est ouvert en fait.
Tout est ouvert. Et alors, il y a effectivement quelques députés ou sénateurs qui prennent la parole pour dire il faut laisser les ruines. Comme ça, les générations futures verront à quoi mènent les révolutions.
Bon. Ils sont un témoignage.
Un témoignage. Ils sont quand même très peu nombreux à proposer ça. Et en fait, il va y avoir plusieurs... Ce qui se passe, c'est qu'en plus, le régime hésite. On ne sait pas si on redevient une monarchie, on ne sait pas si on devient une république, on hésite un peu, on ne sait pas encore comment vraiment on va s'organiser. Et en fait, il va y avoir un vide juridique, très clairement, c'est-à-dire qu'en cas d'insurrection et en cas de guerre, les assurances ne prennent pas en charge. Donc, débrouillez-vous. L'État ne veut pas prendre en charge, à part les destructions pour rentrer dans Paris, c'est-à-dire l'Ouest parisien, mais pour le centre de Paris, c'est à Paris de se débrouiller. Sauf que Paris est à la fois une ville et à la fois une capitale, donc il y a des lieux qui appartiennent à l'État et des lieux qui appartiennent à la municipalité. Donc, il ne va pas y avoir un programme global et tout va se faire un peu au cas par cas. Donc, le premier bâtiment à se relever, il y a quelques bâtiments qui ont très peu de dommages et ceux-là sont évidemment réparés en premier. Mais le premier bâtiment incendié qui va se relever, ça va être le palais de la Légion d'honneur parce qu'en fait, on fait appel au bon cœur des 65 000 personnes qui ont reçu la Légion d'honneur, qui tous donnent un peu de l'argent et il va être le premier à se relever en 1874. Le ministère des Finances menace de s'effondrer sur les piétons. Donc lui, dès août 1871, il est rasé. On vend tous les matériaux pour construire d'autres bâtiments à des chefs à des entrepreneurs. Et puis là, on va hésiter. On vend le terrain, on le vend pas, etc. Mais en 78, va sortir de cet endroit-là un luxueux hôtel, l'Hôtel Continental, qui sera fini juste à temps pour accueillir les riches visiteurs de l'exposition universelle de 78. L'hôtel de ville, il nous faut un hôtel de ville à Paris, on ne peut pas faire sans. Donc on commence par essayer de le restaurer, bon, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, il a été très mal construit, l'ancien hôtel de ville, parce qu'en fait, il n'y a pas de fondation, ça peut tomber, il y avait des inondations, donc on décide de tout raser et on va mettre 10 ans à reconstruire l'hôtel de ville, surtout qu'entre-temps, on est devenu une république et que les républicains ont très très envie d'y mettre beaucoup de luxe dans cet hôtel de ville pour montrer qu'on est capable de faire aussi bien qu'à Versailles. Donc on a une salle, une grande, grande salle de bal qui est plus grande encore que celle de Versailles. Donc là, on va mettre 10 ans pour le construire. Donc au fur et à mesure, on va reconstruire comme ça des choses, sachant que pour certains bâtiments, ça va prendre plus de temps que pour d'autres. C'est le cas, par exemple, du Palais d'Orsay.
Et justement, ce Palais d'Orsay, c'est l'un des derniers bâtiments à trouver finalement sa destination. Il va être décidé de transformer ce terrain en gare.
Alors effectivement, donc ce pauvre Palais d'Orsay qui n'aura jamais eu de chance parce qu'il a déjà mis 30 ans à se construire. Donc maintenant, il est incendié par les communards et donc on se demande... Que faut-il en faire? Alors, le problème, c'est qu'il est en trop bon état. C'est-à-dire que, contrairement au ministère des Finances qui manquait de s'effondrer sur les passants, lui, il tient. Il tient bien. Donc, il fait 24 mètres de haut. Ce n'est pas rien, quand même. Il fait 24 mètres de haut. Et il occupe 6000 mètres carrés. Donc, il faut imaginer, c'est plus grand que la gare d'Orsay. Et donc, pendant 27 ans, on va se demander que faut-il en faire? Le problème, c'est qu'on a un peu autre chose à financer qu'un palais. Puis pourquoi encore construire un palais? En fait, ce qui se passe tout de suite après la Commune, c'est que la République bourgeoise se dit « Mais pourquoi construire encore des palais ?» En fait, dès le 4 juillet, vous avez 1871, donc on est quelques semaines après les incendies, vous avez dans le Figaro un article qui dit « On a autre chose à faire que de larmes à verser sur des pierres et un autre bâtiment à construire que des Tuileries. » Parce qu'en fait, depuis un siècle, on demande à la société de s'adapter à la révolution industrielle, de faire des hôtels pour recevoir des touristes, de faire des gares pour recevoir des hommes d'affaires, etc. C'est ça l'idée. Et donc, tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi pas profiter de l'opportunité pour remodeler Paris et inventer des équipements dont on a besoin. Et donc, déjà à l'époque, on entend dire « les bâtiments publics coûtent trop cher, il y a trop de fonctionnaires ». On l'entend, c'est écrit, on a l'impression que rien n'a changé de ce côté-là. Et donc, le pauvre Palais d'Orsay va mettre 27 ans à trouver une solution. Donc, les ronces reprennent, la nature reprend ses droits. Hein. Ça devient un énorme, une petite forêt sauvage au milieu de Paris. Sauf qu'en 1897, la gare d'Austerlitz, qui est un peu excentrée par rapport au centre de Paris, se dit que les chemins de fer d'Orléans qui gèrent cette gare se disent que ça serait bien de revenir dans le centre. Bon. Et puis, il y a l'exposition universelle de 1900 qui se profile à l'horizon. Et on se dit, décidément, ça serait vraiment bien d'avoir une gare en plein centre, ce qui nous permettrait d'avoir des touristes qui seraient à deux pas du Champ de Mars où va avoir lieu l'exposition universelle. Et donc, là où on a mis 27 ans pour trouver une solution pour ce pauvre Palais d'Orsay, alors il y a eu 40 projets, hein. On n'a pas rien fait. Mais à chaque fois, comme il y a une grosse instabilité ministérielle à cette époque-là, à chaque fois qu'il y a un ministre qui pourrait prendre une décision, l'Assemblée décide de défaire le gouvernement, un autre ministre arrive et un autre projet part. Donc il y a eu 40 projets, mais ce n'est qu'en 1897, donc la dernière ruine de la commune disparaît en 1898, puisque la décision est prise en décembre, et en 1898, on fait enfin disparaître cet énorme bâtiment qui ne... Il faut imaginer qu'on est en plein centre de Paris. Hein. On est en face des Tuileries, qui, elles, ont disparu en 82. C'est vraiment le dernier bâtiment qui reste. Et tout d'un coup, on va avoir une gare qui va se construire en 2 ans. La décision est prise en 2 mois et tout va très rapidement parce qu'il y a un intérêt, ça apporte quelque chose à la société.
Vous, votre idée forte, c'est de vous dire que finalement, les communards étaient contre un système bourgeois, mais que la bourgeoisie trouve dans ces destructions une aubaine pour réaliser un Paris plus moderne, plus industriel, plus rentable aussi d'une certaine façon.
Alors c'est sans doute un peu provocateur de dire que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le prendre, mais en tout cas les incendies de la commune, contrairement à l'image qu'on en a aujourd'hui, les incendies de la commune vont finalement permettre à Paris de se moderniser. C'est-à-dire qu'on va avoir... Jamais Haussmann n'aurait osé s'attaquer à ces bâtiments-là, jamais. Mais là, ils sont incendiés, donc ils sont détruits, donc profitons-en. Et c'est vrai que les incendies de la commune, les destructions de la commune, ont favorisé, en fait, la République bourgeoise qui, elle, a besoin de rues, de circulation, de transport, etc. Et on le voit bien d'ailleurs pour les Tuileries, puisqu'en fait, en 1857, Napoléon III a fait rejoindre les Tuileries et le Louvre. Donc ça ferme, ça représente un énorme quadrilatère et on ne peut plus passer à travers, on est obligé de faire tout le tour. Donc il y a beaucoup d'articles à l'époque sur le sujet. Quand vous arrivez de la rive gauche avec des colis dans les mains pour aller à la poste qui est rue de Castiglione, vous êtes obligé de faire tout le tour par la rue de par la place de la Concorde. Beaucoup de gens se plaignent de ce grand chemin et demandent qu'il y ait un passage entre le Louvre et les Tuileries. Et donc, avec les incendies, tout de suite, dès le mois de juin, il y a des courriers dans la presse qui disent oh, « Surtout, ne reconstruisez pas les Tuileries, laissez-nous une voie de circulation. » Donc, vous voyez bien qu'en fait, nous, on peut regretter, et c'est vrai que les incendies de la commune nous ont privés d'un certain nombre de bâtiments, et c'est vrai, de l'hôtel de ville du Bocador, même s'il a été reconstruit à l'identique. Mais malgré tout, on n'a plus cet hôtel de ville-là, on n'a effectivement pas plus les Tuileries. Mais tout au cours du 19e siècle, les gens qui devaient habiter dans les Tuileries expliquaient que ce n'était pas confortable, que c'était fait de briques et de brocs, etc. Donc, oublions notre regard 5 minutes du 21e siècle et mettons-nous à la place des gens de l'époque qui ont trouvé que c'était vraiment une aubaine d'avoir ces destructions pour pouvoir, un peu comme l'incendie de Londres en 1766 ou le tremblement de terre de Lisbonne en 1757. C'est-à-dire que ça a permis de remettre à plat les équipements parisiens et la politique urbaine.
Eh bien, un grand merci, Hélène Lewandowski. Je rappelle les titres de vos livres. Le premier, La face cachée de la commune aux éditions du Cerf. Et le deuxième, Le Palais d'Orsay, une autre histoire du 19e siècle aux éditions Passé Composé. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.